Une fleur dans un champ d'herbe, par Richard Keller, chapitre 22. Gilles se rend au domicile de Johann Mauduit. Celui-ci perçoit immédiatement la gravité de la situation. Le lieutenant essaie de cacher son embarras. Il ne peut dissimuler davantage ses préoccupations. Il met l'édile au courant. Ce dernier l'écoute sans l'interrompre. L'enquêteur résume parfaitement les événements survenus ces dernières heures. Il fait part de son intention de se rendre chez Aurélie et Guillaume. L'élu se propose de l'accompagner et avance une suggestion. Le curé Brécourt pourrait venir avec nous. Il pousse un soupir de soulagement, heureux de se savoir épaulé en de pareilles circonstances. Il lui faut trouver les mots pour expliquer que le petit Benjamin n'est plus qu'un cadavre en décomposition. Les deux hommes se rendent à la cure à la recherche de Justin Brécourt. Ernestine Ruault effectue des tâches ménagères. Monsieur le curé s'est absenté quelques minutes. La vieille fille propose aux visiteurs de s'asseoir dans le salon en attendant le prêtre. Il s'installe sur deux fauteuils avachis. Il s'agit d'un cadeau d'une paroissienne. Ici, pas d'ameublement ostentatoire. Le curé arrive quelques minutes plus tard, surpris de voir les deux hommes. Il vient vers eux pour les saluer. Lui aussi comprend l'importance du moment. Ernestine Ruault s'éclipse. Semblable à une fourmi besogneuse, élastique sans se faire remarquer. Toujours dans l'ombre, cette grenouille de bénitier s'avère une aide précieuse pour l'entretien de la cure et de l'église. Gilles répète le résumé fait à M. Mauduit. Le père Brécourt fronce plusieurs fois le sourcil. En homme de foi, il plaint les malheureux parents. Il souffre pour eux. Sa compassion va aussi en direction de l'assassin et de sa famille qui sera pestiférée dans le village. Il lui faudra soutenir avec impartialité les personnes qui auront besoin de son aide. N'est-il pas dit que Dieu est amour, pense Justin Brécourt. L'assassin d'un enfant de Lianceville habite dans le village. Le maire n'a pas envisagé un tel scénario. La communauté va être durement éprouvée par une telle épreuve. Les deux familles s'ancrent dans la vie de la commune depuis plusieurs générations. Chacun aura un rôle prépondérant. Le maire s'occupera de la cohésion. Le curé rassemblera dans la prière et les gendarmes s'occuperont d'éviter les débordements. Aurélie, plus blanche qu'à l'accoutumée, reçoit le trio. Son instinct de mère lui souffle le début de la vérité. Benjamin n'est plus. Guillaume accomplit son tour quotidien afin de s'assurer que les bêtes encore en pâture reviennent s'abriter avant la nuit. Elle convie les trois hommes à rentrer. Elle installe tout le monde dans la cuisine. Gilles hésite. Doit-il s'exprimer de suite ou bien attendre le retour du malheureux père? Elle dispose des tasses et sert le café. Le silence devient pesant. Les trois hommes se regardent. Ils se lancent. Elle s'appuie contre le buffet. Sa robe en tissu synthétique se plaque contre ses cuisses. Cette posture accentue l'impression de maigreur. Elle fixe uniquement l'enquêteur. Elle attend d'entendre sortir de sa bouche la terrible nouvelle. Elle se suspend à ses lèvres. Il commence son triste monologue. Il enveloppe ses mots. Il ceint Benjamin d'un luxe de précaution. Il évoque, susurre, bredouille souvent. Un étau lui serre la bouche. Il retient les termes fatidiques. Elle ne baisse pas les yeux. Elle voit au loin son enfant qui s'en va. Il n'est plus qu'un point sur l'horizon. Des larmes coulent le long de ses joues. Elle ne s'essuie pas, ne cligne pas les paupières. Telle une statue de marbre, immobile, elle écoute. Elle boit ses paroles. Dans un énorme effort, il révèle l'atroce réalité. Benjamin Léchin vient d'être découvert mort. Son assassin présumé séjourne en cellule. Gilles va mieux. La boule qui lui a obstrué la gorge a disparu. Il peut donner des détails si elle le désire. C'est dans un état second que la jeune femme s'adresse à son époux qui arrive. Elle lui dit d'une voix semblant venir d'ailleurs, « Benjamin est de retour. » Une atmosphère de malaise gagnait les trois hommes. Guillaume comprend à demi-mot. Sa femme perd sa lucidité. Il la prend délicatement dans ses bras. Elle se blottit jusqu'à épouser les formes du corps de son mari. Aurélie se réfugie vers son ultime rempart contre sa détresse, Guillaume. Gilles ne dit plus rien. Le silence s'impose. Il répondra aux questions si cela peut aider les époux Léchins. Johan Mauduit se fait tout petit. Il se sent impuissant face à la tragédie. Il se dit que sa présence suffit. Il témoigne de son affection et de la solidarité de la commune. Justin Brécourt, en habitué des situations délicates, se rapproche des infortunés parents. Il se saisit simplement de leurs mains et les serre contre lui. Il essuie la larme qui coule sur sa joue. Aurélie tremble. Il lui demande de le regarder. La jeune femme grelotte tous ses membres. Guillaume pleure. Johan Mauduit sort dans la cour. Il compose sur son téléphone portable le numéro du docteur Lecœur et décide de le faire venir. Elle a besoin d'une aide médicale. Le médecin arriva rapidement. Le maire l'attendait à l'extérieur. Les deux hommes pénètrent dans la cuisine. Le couple semble aller un peu mieux. Le docteur examine Aurélie et lui propose une piqûre pour l'aider à surmonter l'épreuve. Elle lui répond fermement et poliment. Elle désire vivre son deuil pleinement. Il ne s'offusque pas de la réponse, bien au contraire. Il trouve que la réaction de la mère de Benjamin est salutaire. Cela veut dire qu'elle prend à bras le corps son problème. De cette manière-là, elle pourra s'en sortir plus rapidement. Justin Brécourt s'est entretenu avec Gilles durant le trajet qui les amena à la ferme. La dépouille peut être restituée à la famille. Il convient de fixer la date des funérailles. Le prêtre propose le lundi 31 décembre. Il s'occupera de tout avec monsieur le maire. Il demande aux époux s'ils désirent prendre des dispositions particulières. Aurélie précise qu'elle souhaite uniquement des fleurs blanches. En l'espace de quelques heures, Éric Palu se transforme. Le jeune homme désinvolte laisse la place à un individu abattu. Réfugié au fond de la cellule, il dort dans la position du fœtus. Les gendarmes viennent le chercher pour reprendre l'interrogatoire. Il suit sans rechigner, comme si plus rien ne lui importe. À leur demande, il explique son geste. Il prétend avoir étranglé Benjamin. La question devenant plus précise, il avoue avoir étouffé l'enfant dans la cabine de la faucheuse. Il procéda ensuite à l'arrêt de l'engin. Il ajoute qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait du corps du garçonnet. Un gendarme lui demande s'il voulait qu'on lui souffle la réponse. Le meurtrier présumé rentre la tête dans ses épaules. Il perd pied. Le lieutenant reprend le questionnement. Il reformule les demandes précédentes. Éric admet qu'il a allongé l'enfant dans une botte en formation. Il ne donne aucun détail supplémentaire. Gilles insiste. Le prisonnier, épuisé, se déclare prêt à avouer ce que les gendarmes veulent. Il le ramène en cellule. Il s'accorde quelques instants avant de reprendre l'audition. À son retour, l'homme peine davantage à répondre. Le lieutenant lui demande de confirmer qu'il possède un BTS de technicien sur machine agricole. Le suspect confirme. Gilles lui assène un coup qui l'ébranle encore plus. Il lui déclare qu'avec une telle formation, il a pu démonter des éléments. Il lui a été aisé de stopper le processus afin de disposer le cadavre de l'enfant à sa guise après le forfait. Complètement déstabilisé, il admet le bien fondé des assertions. L'étau se resserre. Il n'oppose aucune résistance. Il reconnaît avoir procédé de cette manière. Les chiens, incommodés par l'odeur des graminées, n'ont pu déceler l'odeur de l'enfant. Ils sont venus dans la cabine. Les enquêteurs trouvèrent normale l'attitude des chiens, car Éric a amené souvent Benjamin dans les champs. Les balles hermétiques, ne laissant passer aucune odeur, ils n'ont pas approché la dépouille. Gilles est soulagé, mais il trouve que quelque chose sonne faux dans le comportement d'Éric Palu. Ce dernier n'avoua pas aux enquêteurs qu'il avait rencontré Aurélie à la naissance de Benjamin. Elle l'avait éconduit plus fermement qu'à l'accoutumée. Il ne lui pardonnait pas de refuser d'admettre sa prétendue paternité. La mort de Benjamin le perturba à plus d'un titre, et en l'espace d'un éclair, il se persuada qu'en s'accusant du meurtre, il se vengeait aussi de l'indifférence et du rejet d'Aurélie. Enferré dans le mensonge et affecté profondément par la fin tragique de l'enfant, il ne voulut pas faire machine arrière. De plus, la découverte du cadavre de Julie le ramenait à des souvenirs pénibles. Il aurait suffi qu'il tende la main au lieu de repousser la malheureuse et de jeter la clé au fond du puits. Alors, il décida de payer sa faute précédente en continuant à s'accuser à tort de la mort de Benjamin.